Monty Python est le nom d'une troupe comique anglaise formée à la toute fin des années 60 et composée de Graham Chapman, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones, John Cleese et Terry Gilliam, aujourd'hui plutôt connu pour ses talents de réalisateur.
Les Monty Python, tout ça, ça vient de séries télé, à leur origine et après leur succès. Le monde des séries a baigné les Pitons, séries à sketch ou sitcom mythique.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Romain Ivita.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes journaliste spécialiste des séries. On parle des Monty Python aujourd'hui dans la curiosité parce que l'un des membres fondateurs, Terry Jones, est mort le 21 janvier dernier à l'âge de 77 ans. Avant de nous les présenter, peut-être qu'il faut faire la liste de leur succès au cinéma parce que ça parlera plus aux auditeurs d'RTL.
En effet, c'est par les films qu'ils sont devenus connus en France. Alors, il faut citer leurs trois grands films. Bien évidemment, Sacré Graal, qui est une parodie de l'histoire du roi Arthur. La vie de Brian, qui est une satire de la Bible. Et puis Le sens de la vie, qui est un film à sketch sur le sens de la vie, mais aussi de la mort. Ça se termine mal.
C'est quel genre d'humour, les Monty Python ?
C'est un mélange d'humour absurde, de non-sens britannique, de parodie et de contre-culture. Qui sont vraiment nés à cette charnière. Donc dans l'Angleterre de l'après-guerre, c'est la première génération qui a grandi après la guerre, donc c'est cette génération qui se révolte un peu contre les parents qui leur voient un grand destin. Et tout ça baigné de l'humour britannique tel qu'on le connaît, qu'on l'aime.
Si on devait les comparer à des Français qu'ils ont d'ailleurs inspirés, ce seraient des groupes d'humoristes comme Les Nuls, Alain Chabat, Chantal Lobby ou alors Les Deschiens, vous diriez quoi ?
Je dirais qu'en effet, les Nuls, c'est ce qui s'en rapproche le plus à la télé, même s'il y a aussi une grosse influence américaine chez Les Nuls. Mais c'est vrai qu'on est plus dans ce type d'humour-là que chez leurs contemporains, on va dire du Splendide. Le Splendide, on n'a pas encore ce côté quatrième mur, ce côté méta qu'on a chez les Monty Python, qu'on va retrouver par la suite.
Oh là,
chez
ça veut dire quoi, c'est quoi ces mots-là ?
Le côté méta, c'est-à-dire qu'on va inclure le fait qu'on sait qu'on est dans une émission ou dans un film. C'est une grande caractéristique des Monty Python. Ils n'hésitent pas à s'adresser directement aux téléspectateurs ou aux spectateurs pour dire, attendez, cette scène du film ou cette scène de l'émission est nulle, on va passer à une autre scène.
Et le quatrième mur, même si on en parlera plus longuement un peu plus tard et on l'illustrera.
Ils l'ont souvent utilisé, le quatrième mur.
C'est le fait justement, voilà, là aussi, de s'adresser aux gens et d'être conscient dans la fiction qu'on est dans une fiction.
Et de sortir et de casser le mur pour aller dans une pièce à côté, éventuellement.
Ils sont combien, les Monty Python ?
Ils sont 6, 5 anglais, 1 américain. L'américain, vous l'avez cité dans l'intro, Terry Gilliam, qui est maintenant devenu un célèbre réalisateur. Et les 5 autres, ce sont 5 purs jus de l'éducation britannique. Ils ont fait les grandes universités, Cambridge et Oxford.
Ah, ce sont des intellos, en fait.
Ce sont des intellos dont les parents les voyaient comme médecins, avocats, etc. Alors que eux, pas du tout. Ça les intéressait absolument pas. Et en fait, une particularité des universités britanniques, comme Cambridge et Oxford, c'est que toutes ces universités ont des troupes de théâtre qui écrivent leurs propres sketchs, qui jouent ça sur scène, qui font des tournées au niveau local et parfois au niveau international. Et c'est comme ça qu'ils se sont tous rencontrés.
On cite leurs noms, les plus connus, il y a quoi ? Il y a
John Cleese, un grand tout maigre qui a joué notamment dans Un poisson nommé Vanda, qui a joué Q dans certains des James Bond avec Pierce Brosnan, c'est vraiment le plus reconnaissable. Il y a Michael Palin qui maintenant fait des documentaires de voyage. Il y a Eric Idle qui est un peu le mélomane de la troupe. Il y a Graham Chapman, c'est celui qui jouait le roi Arthur. Malheureusement, c'est le premier à être décédé à la fin des années 80. Et puis Terry Jones, vous l'avez cité, qui vient de nous quitter, qui était celui qui réalisait les films des Monty Python, en plus de jouer dedans et d'écrire avec ses camarades.
Alors, ils vont devenir célèbres d'abord grâce à une série télé, Monty Python Flying Circus, mais en France, on l'a dit, on les connaît surtout pour leur film. Et alors, il y a des histoires, si on rentre dans les coulisses de la production de ces films, on trouve des grandes stars.
On trouve des stars incroyables. Alors, le tout premier film, on peut croire que c'est un gag au début du générique de début du film, c'est marqué « Playboy présente ». On peut se dire que c'était un clin d'œil, mais pas du tout. C'est vraiment Hugh Hefner, le patron du fameux magazine de charme Playboy, qui a financé le film. Puisqu'à l'époque, l'émission télé des Monty Python ne passait qu'en Grande-Bretagne. Ça ne passait pas aux États-Unis à cause de problèmes techniques de transcodage, dont je vous ferai la grâce de ne pas détailler.
Oui, restons sur Playboy, ça nous intéresse plus.
Ouais. Dire.
Et en fait, il se trouve qu'à l'époque, il y avait des clubs Playboy partout dans le monde. Et le patron du club londonien appelle Hugh Hefner en disant, il y a ce truc à la télé qui est absolument incroyable. Faudrait absolument que ça passe aux États-Unis. Et là, ils se disent, plutôt que d'importer émission télé, on va en faire un remake pour le cinéma. Et donc le tout premier film financé par Hugh Hefner, ce sont en fait des remakes tournés sur pellicule des meilleurs sketchs de la télé.
Du sexe, de l'érotisme dicté par le producteur.
C'est exactement la même chose, ça le faisait rire. Le second film.
Pas de raison.
Même sans fille à poil de l'or.
Exactement. Il y en a toujours un petit peu, mais il y en avait déjà dans la version télé.
Alors, le plus connu, c'est Sacré Graal. Là aussi, il y a une star derrière.
Il y en a deux. Il y a les groupes Pink Floyd et Led Zeppelin.
Ah oui, quand même.
Puisque les managers des Monty Python connaissaient les managers de ces groupes de rock. Et on retrouve cet esprit contre-culture là aussi. Ils sont de la même génération, ils ont ce même état d'esprit. Et ils se disent, bah tiens, on va mettre un peu d'argent dans ce film auquel personne ne croit. Le film suivant, La vie de Brian, donc, qui a créé un véritable tollé, puisque c'est une parodie de la Bible, donc il y a eu des menaces de mort, des menaces de mettre des bombes dans les cinémas. Bah lui, il a été financé par George Harrison, le guitariste des Beatles, tout simplement. Puisqu'ils étaient finis par devenir amis, puisqu'ils gravitaient un peu dans le même cercle. Et pour le dernier film, par contre, aucun problème. Là, c'était financé d'avance et ça a même gagné un prix au Festival de Cannes, donc le sens de la vie au début des années 80.
Romain Nigita, vous publiez Série Anatomie, c'est aux éditions Fantasque. Les Monty Python ont lancé leur carrière en 1969, c'est à la BBC. Quel producteur est quand même assez dingue pour leur donner les clés d'une émission?
Alors, c'est un des responsables de cette chaîne publique, puisque la BBC, c'est l'équivalent de France Télévisions en Grande-Bretagne. Et un certain Barry Took a repéré ces comédiens qui travaillaient à la fois comme comédiens et auteurs dans différentes émissions à sketch. Ils travaillaient notamment pour une émission qui était animée par David Frost, qui est un peu le Philippe Bouvard de l'époque en Grande-Bretagne, qui est à la fois un journaliste et animateur d'émissions où il y a des sketchs. Et donc, ce fameux Barry Took, qui travaille dans les bureaux de la BBC, se dit, bah tiens, tout ce petit groupe de petits jeunes, ils sont assez sympas, je vais les réunir dans une émission. Je vais leur donner un contrat pour 13 épisodes, mais je sais absolument pas ce qu'ils vont y faire. Et eux non plus. Eux, ils disent, ok, on le fait, on est partant, mais on ne sait absolument pas ce qu'on va mettre dedans.
Et ils imaginent des titres improbables pour cette émission.
Alors oui, je les ai notés tellement ils sont improbables. Hein, on peut pas les retenir par cœur.
Ouais.
Alors ils ont pensé au moment d'élévation de la grenouille. Voilà, un titre. Autre titre, le temps du hibou. Oui. Et également un cheval, virgule une cuillère, virgule une cuvette.
Il y avait des points communs, c'est l'animal.
L'animal, tout à fait. Et bon, on le retrouve avec le python dans le titre définitif.
Et pourquoi le python alors?
Alors pourquoi le python? C'est parce que en fait, ils voulaient qu'il y ait une notion visqueux, gluant, pour décrire leur humour. Et Monty, c'est parce qu'ils connaissaient un type qui s'appelait Monty dans un pub.
Pas toujours chercher une logique, voilà. C'est Denis, avec les Monty Python.
Et ça les faisait rire, Monty.
Et ça les faisait rire. Et Flying Circus, le cirque volant, parce que c'était le nom de code de l'émission dans leur premier contrat. En gros, ça voulait dire que c'était un joyeux bazar et donc ils ont gardé ce nom de code qui a fini par devenir le nom de leur troupe alors que la troupe n'avait pas de nom au départ.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est le roi Arthur et voici mes loyaux chevaliers de la table ronde. À qui appartient ce château?
C'est le château de mon maître, Guy le Loimer.
Maintenant, écoutez-moi, gentilhomme.
Je ne veux plus vous dire un seul mot, vous entendez? Espèce de torchon pour vomi, de tripe d'animal à tête vide. Je pète dans votre direction. Ta mère était un hamster.
La curiosité est un vilain défaut.
Et ton père sentait les bêtes chaudes.
Sacré Graal.
Insulte improbable.
J'adore La vie de Brian, Le sens de la vie. Ce sont les films cultes des Monty Python, cette bande de British à l'humour complètement absurde qui ont fait d'abord le bonheur des téléspectateurs anglais, vous savez, avec cette série complètement déjantée, Monty Python Flying Circus. Et c'est le spécialiste des séries, Romain Nigita, qui nous raconte leur histoire, leur destin. Vous les découvrez peut-être, en tout cas leur histoire est absolument dingue. On est en 1969 et il y a un producteur de la BBC, un peu fou à la fois, qui a forcément un peu de nez et un peu de courage. Il va donner carte blanche à 6 humoristes, 6 comédiens qu'il a remarqués dans sa chaîne. Il y a 5 anglais et un américain. Est-ce qu'il y a un concept à l'origine de cette émission qui va naître et qui va devenir cultissime?
Il n'y a absolument aucun concept. Ils sont terrifiés lors de ce fameux rendez-vous avec le producteur. Ils disent oui à tout. Et c'est après où ils vont se demander mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans cette émission. Tout ce qu'ils savent, c'est que ça serait une émission à sketch, donc des petites scénettes qui s'enchaînent les unes les autres.
En direct ou pas en direct?
Il y a une partie qui est tournée en public, alors pas en direct, mais en public. C'est pour ça qu'on entend des rires enregistrés dans la bande-son. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ils racontent que lors des premiers enregistrements, étant donné que le titre de l'émission c'est Monty Python Flying Circus, il y a beaucoup de personnes âgées qui venaient avec leurs petits-enfants s'attendant à voir un numéro de cirque. Et donc, ils attendaient les clowns, les magiciens, et évidemment, ils ont été très déçus.
Il y avait des gens qui disaient des très gros mots et qui faisaient rire. Voilà.
Et finalement, le seul concept qu'ils ont fini par trouver, c'était d'avoir des liens entre chacun des sketchs qui ne se faisait quasiment pas à l'époque, et même depuis, on ne l'a pas vraiment vu.
Un fil rouge?
Il y a une sorte de fil rouge, et chaque sketch, chaque fin de sketch mène au sketch suivant. Or, soit par les petites scénettes en dessin animé faites par Terry Gilliam, parce que Terry Gilliam était à la base dessinateur de presse, et donc il faisait lui-même des animations en dessin animé qui finissaient un sketch et qui menaient au suivant. Soit c'est un personnage d'un sketch qui se tourne vers la caméra et dit vraiment littéralement, ce sketch est totalement idiot, donc on va passer à la suite.
C'est parce qu'ils n'avaient pas le sens de la chute, non?
Par l'avouer.
Parce qu'on en connaît d'autres dans la curiosité. On a Bastien Robin qui est très drôle, mais il n'a jamais les chutes.
Franchement, c'est pas sympa de dénoncer les petits camarades.
Non, mais j'ai dit, il est très drôle, mais il n'a jamais les chutes.
Oui, c'est ça, le compliment et la claque derrière.
Je ferai l'inverse la prochaine fois.
C'est du bonnec dans le texte. Et donc, ils avaient trouvé ce quatrième mur, cette idée aussi de casser éventuellement éventuellement le mur du décor. C'est ça, ils faisaient vraiment ça physiquement.
C'est arrivé dans certains sketchs, ouais, que deux sketchs différents sont tournés dans deux décors côte à côte, mmh, et donc vraiment les comédiens passent d'un décor à l'autre sous les yeux des téléspectateurs. C'est complètement absurde et c'est vraiment typique de leur humour.
Qui va faire quel téléspectateur, quelle tranche d'âge va faire le succès des Monty Python?
Alors au départ, ce sont plutôt les jeunes téléspectateurs, les étudiants, les lycéens, les enfants, parce que leurs parents ne comprennent absolument rien à cet humour. D'ailleurs, au départ, la série est diffusée à des horaires et à des dates qui changent tout le temps, donc c'est très difficile de repérer l'émission dans la grille. Donc c'est vraiment les gamins, les étudiants qui se disent le lendemain, mais attends, mais t'as vu ce truc improbable? C'est le bouche à oreille qui va commencer à faire le succès de l'émission au départ.
On est dans les années 70, hein, puisque ça démarre en 69.
Ça commence en fin 69, ouais, tout à fait. Ça. Et au départ, justement, la BBC les laisse faire, puisque c'est un truc qui passe un peu sous manteau, quasi expérimental.
Mais ça raconte quoi? C'est seulement complètement du gros délire, ou il y a aussi, je sais pas, une attaque des institutions, de la société?
Il y a vraiment cette attaque en règle de la société.
Un métatexte.
C'est même pas méta, c'est clairement, on s'attaque à l'armée, aux politiques, à la religion, aux personnes âgées, aux jeunes, aux pauvres, aux riches, à tout ce qui représente une autorité. En gros, c'est l'autorité qui hérisse le poil des Monty Python, et ils tournent ça en absurde.
Mais la BBC laisse faire.
Ils laissent faire au départ parce que pour eux, c'est une petite émission qui passe dans un fond de gris. Et c'est parce que le succès va commencer à venir avec les deuxième et troisième saisons que là, ils vont commencer un peu plus à s'intéresser au contenu. Sauf qu'on pourrait s'attendre justement à ce qu'ils tentent de censurer, justement, ces attaques contre le gouvernement et la religion. Pas du tout. Les seuls sketchs qui vont leur poser problème, ce sont des sketchs qui parlent de pipi et de masturbation. c'est les seules choses qui vraiment vont les embêter dans l'émission.
Ouais, c'est drôle. Et donc, voilà, c'est la censure version british. Est-ce que vous pouvez nous décrire, pas leurs sketchs, leurs séquences les plus connues, les plus cultes.
Écoutez, le sketch qui fait absolument rire tout le monde, et vous me demandiez tout à l'heure qui avaient bien pu influencer en France, Chantal Lobby dit elle-même qu'elle hurle de rire chaque fois qu'elle voit le sketch du ministère des marches stupides. Alors c'est dommage que nous soyons à la radio, parce que c'est totalement visuel. En gros, là aussi, cette manière de s'attaquer aux institutions, au gouvernement, c'est une sous-section de l'État qui permet de breveter des marches totalement idiotes. On voit John Cleese avec son corps absolument tout mou, qui marche comme un idiot dans la rue et qui va dans un bureau pour dire voilà, j'ai inventé cette marche, est-ce que je peux la déposer?
Évidemment, on vous propose ça sur nos réseaux sociaux parce que c'est encore meilleur quand on le voit.
Il y a aussi le sketch du perroquet mort.
Perroquet mort, ça c'est un grand classique des Monty Python. C'est tout simplement un client qui est allé dans une animalerie pour acheter un oiseau et qui revient quelques heures plus tard pour dire écoutez, l'oiseau m'est vendu et est mort. On voyait bien qu'il ne vole pas et la mauvaise foi absolue du vendeur dit non, regardez, il va très bien, regardez, je le tape contre la table, il est mort, non, je vous assure qu'il est formidable, il va s'envoler, non, il est mort. Ça dure comme ça en boucle pendant des heures. Il y a la même chose avec un vendeur de fromage aussi. Qui n'a aucun fromage.
Il est mort le fromage, non?
Non, c'est qu'il n'a aucun fromage qu'on lui demande. Il dit j'ai tous les fromages. Chaque fois, il demande est-ce que vous avez ceci? Non, je l'ai pas. Non, j'ai pas celui-là. Non, j'ai pas ce.
Et puis, Romani Gita, il y a aussi cette chanson, la chanson du bûcheron. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack. Parce qu'il y a beaucoup de chansons dans les sketchs des Monty Python. Alors il faut planter le décor parce que là on n'a pas l'image non plus.
C'est un bûcheron canadien qui raconte sa journée, qui raconte je me lève le matin, je vais travailler, je coupe des arbres, je rentre fatigué le soir, ma femme m'a fait un bon dîner et les chœurs sont interprétés par la police montée canadienne. Donc voilà, ça ressemble une chanson un peu folklorique, très sympathique. Sauf que plus on avance dans les paroles, plus ce qu'il raconte paraît un peu étrange. Il dit je suis comme mon papa, lui aussi était bûcheron, comme lui je vais dans les bars, comme lui je mets des barésies et je m'habille en femme. Et au fur et à mesure, la chorale de la police montée dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Ils s'en vont tous et ils le laissent tout seul à la fin.
Oui, donc là aussi, il y a quelques messages qui passent derrière l'humour pour le public britannique.
Ah, complètement. Il y avait un peu la même chose avec des juges de la cour qui discutent dans les coulisses du tribunal et qui, au fur et à mesure, ils enlèvent leur perruque, leur robe de magistrat, etc. Dessous, ils sont également en barésie, en collant, etc. Donc il y a ce côté, dédramatisons tout ça, on est anglais, on peut dire ce qu'on veut.
Oh, mais c'est un peu austère ici aujourd'hui, non?
Soyez fiers d'être curieux.
Apportez-nous plus d'appareils.
Et prenez aussi la machine qui fait ping.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Qu'y a-t-il au programme aujourd'hui?
Un accouchement.
Oh, et ça consiste en quoi?
C'est l'opération qui consiste à extraire un nouveau bébé hors du ventre d'une dame.
Merveilleux ce qu'on arrive à faire de nos jours.
Sur RTL.
Oh, je vois qu'on se sent la machine qui fait ping.
C'est celle que je préfère.
Extrait du film Le sens de la vie, l'un des films des Monty Python, avec donc le médecin qui découvre ce qu'est un accouchement.
C'est très inquiétant. Déjà qu'on est un peu stressé quand on accouche, mais là, franchement.
La machine qui fait. C'est quand même très très drôle. Bref, et ce film a quand même reçu le grand prix du jury au Festival de Cannes.
Romain
Nigita, je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des séries, c'est quand même assez rare. Un film d'humour récompensé à Cannes, ça n'arrive pas souvent. Ils ont dû se demander ce qui leur arrivait aux Monty Python.
Je pense qu'ils se demandent encore aujourd'hui. Ouais. Non, ça montre l'évolution de la perception qu'on a pu avoir en France des Monty Python, qu'on ne connaissait absolument pas, puisque même à ce moment-là, leur émission télé n'était toujours pas diffusée à la télé française. Elle n'arrivait qu'en 1991. C'était sur FR3 à l'époque et également sur le câble sur Canal Jimmy. Donc on est plus de 20 ans après la diffusion initiale en Grande-Bretagne et donc on a eu tous leurs films avant même de voir leur émission télé.
De voir ce Monty Python Flying Circus et donc ce premier succès au cinéma, on en a parlé tout à l'heure, ce sera Sacré Graal, un petit extrait, on se fait plaisir.
Ni.
Oh.
Nu.
Non, c'est pas ça, c'est ni. 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 C'est ça. Ni. 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 Êtes-vous en train de dire ni à cette vieille femme?
Oui.
Oh, c'est une triste époque quand n'importe quel voyou peut dire ni à volonté à une vieille dame. Il y a une pestilence qui plane sur ces terres. Il n'y a rien de sacré. Et même ceux qui arrangent et conçoivent les bosquets connaissent l'angoisse économique qui caractérise cette époque historique.
Avez-vous dit bosquet?
Oui. En bosquet, je m'y connais. Je suis bosqueteur.
Monty Python, Sacré Graal, le film sort en 1975. Romain Nigita, vous nous racontez ce que raconte ce film? Est-ce qu'il y a un pitch racontable d'ailleurs?
Parce que moi là, il y avait un scénario.
C'est la légende du roi Arthur, tout simplement, mais en version totalement absurde. Une version dans laquelle il n'y a pas de chevaux, mais des gens qui font les bruitages de sabots avec des noix de coco. Mais à l'image.
Et oui, on les voit.
C'est-à-dire qu'on les voit courir sur leurs propres jambes avec les noix de coco dans les mains. Et donc, voilà, c'est ce roi qui dépêche ses différents chevaliers pour trouver le Graal. Vont-ils le trouver ou pas? On le saura à la fin.
Ah, il tombe sur un lapin, sur
un lapin tueur.
Ils ont une chute cette fois-ci alors.
Ah bah
vous
la chute.
Qu'ils n'avaient pas souvent de chute.
La chute du film, c'est quand même attention pour les gens qui n'ont pas vu le film, mais c'est la police qui arrête tout le monde. Mais la police du XXe siècle.
Ah oui.
Qui arrête toute l'équipe de tournage.
Bel anachronisme.
Voilà.
Et donc ensuite, il y a la vie de Brian. On en a dit un mot rapidement. Donc c'est une parodie de la vie de Jésus. Hein.
C'est un contemporain de Jésus, c'est celui qui naît dans l'étable voisine de celle de Jésus et toute sa vie se déroule dans l'ombre de Jésus et lui aussi devient, malgré lui, le Messie pour des personnes qui croient en lui alors qu'il n'a strictement rien fait, il veut juste draguer les filles, tout simplement, comme un garçon de son âge. Et donc, en effet, c'est une manière de montrer, de se moquer un petit peu des phénomènes de croyance et de religion aveugle, avec typiquement le sermon sur la montagne où les gens qui sont au loin se demandent « Mais il dit quoi là Jésus? J'entends pas bien. » Il a dit quoi avec la manière de déformer tous les textes sacrés qu'on connaît, évidemment.
Et donc, il y aura des menaces de boycott, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Film en partie financé par le Beatle George Harrison. Et alors, je ne sais pas s'ils étaient copains avec les Beatles, mais ils vont créer les Monty Python à un groupe parodique des Beatles.
Eric Idle, qui est le mélomane de la bande dans ses œuvres en solo, il va faire un faux documentaire qui s'appelle All You Need Is Cash. Donc, tout ce dont on a besoin, c'est non pas de l'amour, mais de l'argent, du liquide, qui est un faux documentaire qui retrace la vie du groupe Les Ruttles, et non pas les Beatles, et qui parodie toutes les grandes étapes de la vie des Beatles et se font arrêter à l'aéroport, non pas pour trafic de marijuana, mais pour trafic de sachets de thé.
Et dans ce film, la chanson Help devient Ouch. 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 Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les Beatles, de cet hommage des Ruttles?
Les Ruttles, ils étaient copains avec eux, donc ça a bien fait rire, ouais.
Est-ce qu'on peut dire que les Monty Python ont inventé un genre, Romain Nigita?
Ils ont réinventé déjà l'émission à sketch qui existait déjà dans une forme classique, et ils ont inventé l'humour absurde à la télé. C'est un peu les Beatles de la télévision, les Beatles de l'humour anglais. Ça fait partie de toutes les grandes figures qu'on aime dans cette cool Britannia, comme on dit. Voilà, ils sont au même titre que la reine, que les Beatles. Et ils sont sur ce podium-là de ce qu'on aime chez nos cousins d'outre-Manche.
Ils sont créatifs. L'un des Monty Python, Michael Palin, a inventé lui aussi un style documentaire, c'est ça?
Il a inventé le documentaire de voyage à la première personne. Ce qu'on voit maintenant partout, sur toutes les chaînes.
Échappée Belle,
exactement.
Documentaire d'immersion. Voilà.
Exactement, mais c'est lui qui a inventé ça. Avant, il y avait des documentaires très classiques avec une voix off qui vous décrivait des paysages. Maintenant, lui, il est devant la caméra, on le voit, il dit suivez-moi, on va découvrir ceci, on va découvrir ça. Il a inventé ça dans les années 80 et maintenant, il se consacre quasiment exclusivement à ça.
Romain Nigita, il paraît aussi que toutes les archives de cette formidable série sur la BBC Monty Python Flying Circus ont failli disparaître. Pour quelle raison ?
Pour une raison qui est malheureusement commune à beaucoup de programmes de la télé britannique des années 60-70, qui tient d'abord une particularité technique. Ces émissions étaient enregistrées sur cassette vidéo. Or, c'est un peu comme les VHS qu'on a connus avec nous, les magnétoscopes, mais c'était la même chose, mais en modèle professionnel. Mais tout simplement, ça voulait dire qu'on pouvait réenregistrer par-dessus, on pouvait écraser les programmes. Et les responsables de la télé britannique, à l'époque, se disaient, mais de toute façon, voilà, ça, c'est du programme de flux, ça n'intéressera personne après la première diffusion. Ils n'imaginaient absolument pas qu'un jour, des DVD, des plateformes et des fans de ce genre d'émission-là, ils ont dit, les cassettes, elles coûtent très cher, elles coûtent également cher à stocker parce qu'elles sont très grandes, on va réutiliser les cassettes pour mettre d'autres émissions, pour mettre des matchs de foot, pour mettre des concerts, pour mettre les infos. Et là où ils ont eu beaucoup de chance, c'est Monty Python, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaillait à la BBC, qui a passé un coup de fil à Terry Jones et lui a dit, mais attends, là, ils vont écraser toutes les cassettes, lui dit, viens les chercher, je te les passe un peu sous le manteau. Il a tout stocké dans son grenier. Et quelques années plus tard, quand ils ont vraiment fini par devenir célèbres grâce à leur film et que certaines chaînes de télé ont voulu rediffuser leur programme, la BBC a dit, nous on n'a pas ça, on a tout écrasé. Et Terry Jones, si, moi j'ai tout dans mon grenier, il n'y a pas de problème.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Parce qu'il n'y a plus d'émissions de télé communes, ils font de quoi ? Des spectacles ? Ils ont chacun une carrière solo au cinéma ?
Tout ça à la fois. Ils ont continué à faire des tournées sur scène, où ils rejouent certains des sketchs de l'émission. Ouais. Ils ont tourné au Canada, aux États-Unis. Ils ont même fait un très très grand spectacle assez récemment, c'était en 2014, au O2 Millennium Arena à Londres, qui est un peu l'équivalent de Bercy, à Paris. Et ils ont joué, je crois, plus de 10 reprises, ce qui fait quand même plusieurs milliers de spectateurs. Ils ont fait chacun des films dans leur coin. Terry Gilliam, évidemment, a fait des films comme Brasil et comme L'Armée des Douze Singes.
Un poisson nommé Vanda, il y a deux des Monty Python qui jouent dedans.
John Cleese et Michael Palin, ils ont également coécrit le scénario. John Cleese a fait une série humoristique qui est absolument cultissime, qui s'appelle L'Hôtel en folie, dans laquelle il joue un patron d'hôtel totalement hystérique. C'est un chef-d'œuvre d'humour, si vous pouvez mettre la main dessus. Ça existe en DVD, c'est absolument brillant. Voilà, ils ont tous poursuivi chacun de leur côté, et puis de temps en temps, ils se sont réunis pour des projets communs.
Merci beaucoup Romain Nigita. Je rappelle que vous êtes le co-auteur avec Alain Carazé, qu'on salue, de Séries anatomiques et publié aux éditions Fantasque.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.